création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Depuis quelques années, nous nous aventurons dans la création de ce qu'on appelle film fantôme. Pour Céline Terce, si le fantôme est ce qui dans le noir vibre, si le fantôme est le hors-champ du mirage, si le fantôme est ce qui hante en l'absence de traces, alors la radio est par essence l'art fantôme. Cet art fragile et puissant à la fois, non de saisir, mais de transmettre l'onde fugitive. C'est mue par cette conviction qu'avec Florence Colombani, elle a commencé à aller au-devant de spectres cinématographiques qui ont hanté et défait jusqu'aux plus grands cinéastes. Visconti et son scénario Proust, Fellini et son voyage de Mastorna, Lozé et son Proust encore. Autant de cinéastes traqués par des fantasmes psychiques, de scénarios trop dangereux pour accéder à la vie, des films assassinés par leurs propres auteurs. Elles ont ainsi voyagé dans ces ruines mentales, éparpillées dans d'autres films, abandonnées dans des notes, refoulées dans des lettres, par des cinéastes aujourd'hui défunts. En janvier 2012, c'est aux moines de Matthew Lewis, tels que Buñuel ou Artaud avaient imaginé l'adapter, que Florence Colombani et Céline Terce se sont consacrés.
Dami odie aream, tunc respondit homo, domine non habeo aream, tibini si anam.
Je suis inquiet, Ambrosio. Le danger est partout. Le mal s'infiltre parfois de manière sournoise. Je perçois des signes.
Des signes?
Quelque chose rôde autour du couvent.
C'est André Breton qui a redécouvert le moine et qui a donc suscité l'intérêt pour cette œuvre. Ce goût du fantastique, ce goût de la transgression. Georges Bataille est pas loin. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre un peu kitsch, très kitsch même, qui s'appelle Clovis Trouille, qui peint des religieuses en jartelles, etc. Enfin, on a un peu l'impression qu'il y a cet érotisme de bazar qui a un petit peu amusé les surréalistes. Et puis, ce n'est pas dénué d'humour non plus. Enfin, c'est un humour assez particulier, hein. C'est un humour macabre, un humour noir. Mais je crois que l'anthologie de l'humour noir, c'est aussi une des œuvres d'André Breton. Et puis, alors Artaud, il était dans le sillage des surréalistes au moment où il a fait la traduction du moine, une traduction assez libre, où il a rajouté un certain nombre de choses de son cru. Mais on voit bien ce qui, chez Artaud aussi, a pu le fasciner. Effectivement, l'horreur, la cruauté, le côté très sombre, le sadisme, l'inceste, le matricide, le crime.
Ce soir, François Larocque, professeur de littérature anglaise à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, tout comme Jonathan Pollock, professeur de littérature anglaise à l'Université de Perpignan, ou Jean-Claude Carrière, scénariste, interviennent dans ce processus de confrontation des projets d'Artaud et de Buñuel avec le film réalisé par Dominique Moll. Atelier de la création, diffusé une première fois le 19 janvier 2012 par Florence Colombani et Céline Terce, Le Moine de Lewis.
Proie la plus facile. Vous me dites que vous êtes toujours poussé vers la proie la plus facile.
Oui. Comme par un grand vent.
Venez-vous vous confesser? Vous mesurez dans mes réponses l'ampleur de vos péchés. Y a-t-il de la joie pour vous à le faire? À votre prochaine venue, confesserez-vous un péché encore plus grand? Chaque pécheur commet des péchés à sa mesure. Dieu, soyez-en sûr, les condamne tous.
Et vous, mon père? Le mal ne vous fait pas peur ? Satan a du pouvoir tout de même.
Satan n'a que le pouvoir que l'on veut bien lui donner.
C'est si simple que ça.
Oui. C'est si simple.
Le moine de Louis, de l'écrit à l'écran.
C'était un homme d'un port noble et d'un aspect imposant. Sa taille était haute et sa figure remarquablement belle. Il avait un nez aquilin, de grands yeux noirs et étincelants, et d'épais sourcils qui se touchaient presque. Son teint était d'un brun foncé mais transparent. L'étude et les veilles avaient entièrement décoloré ses joues. La tranquillité régnait sur son front sans rides, et le consentement exprimé dans chacun de ses traits annonçait une âme exempte de soucis comme de crimes. Tel était Ambrosio, prieur des Capucins et surnommé l'homme de Dieu.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Caro concupiscit adversus spiritum, et spiritus adversus carne. Hear now the words of St. Paul. The flesh lusts against the spirit, and the spirit lusts against the flesh. In this endless struggle, how can the spirit triumph and find God without the help of chastity? Chastity is not a heavy yoke. It is neither a punishment nor a burden.
Le moine, comme vous savez, fait partie des livres qui hantaient les surréalistes.
Jean-Claude Carrière.
Antonin Artaud en a fait toute une traduction et Buñuel, dès le début, m'avait dit qu'il aimerait un jour adapter ce livre au cinéma. Ça fait partie de ces romans qu'on appelle soit gothiques, soit romans noirs, anglais, de la fin du 18e, début 19e, qui sont les pré-romantiques, c'est-à-dire qui sont l'éclosion encore brutale, bruyante et incontrôlée d'un romantisme échevelé. Frankenstein fait partie de cette génération, le Frankenstein de Mary Shelley. Donc c'est un livre que j'aimais déjà beaucoup.
Dami odie aream, tunc respondit homo, domine non abeo aream, divini si aname.
Je suis inquiet, Ambrosio. Le danger est partout. Le mal s'infiltre parfois de manière sournoise. Je perçois des signes.
Des signes?
Quelque chose rôde autour du couvent.
C'est André Breton qui a redécouvert le moine et qui a donc suscité l'intérêt pour cette œuvre. Ce goût du fantastique, ce goût de la transgression. Georges Bataille est pas loin. Je sais pas si vous connaissez ce peintre un peu kitsch, très kitsch même, qui s'appelle Clovis Trouille, qui peint des religieuses en jartelles, etc. Enfin, on a un peu l'impression que c'est cet érotisme de bazar qui a un petit peu amusé les surréalistes. Et puis, c'est pas dénué d'humour non plus. Enfin, c'est un humour assez particulier, hein. C'est un humour macabre, un humour noir. Mais je crois que l'anthologie de l'humour noir, c'est aussi, voilà, une des œuvres d'André Breton. Et puis, alors Artaud, il était dans le sillage des surréalistes au moment où il a fait la traduction du moine, une traduction assez libre, voilà, où il a rajouté un certain nombre de choses de son cru. Mais on voit bien ce qui, chez Artaud aussi, a pu le fasciner. Effectivement, l'horreur, la cruauté, le côté très sombre, le sadisme, l'inceste, le matricide, le crime.
Artaud, il en parle dans l'avertissement au roman. Il parle de ce pouvoir très spécial qu'a le roman de Louis de faire lever en bloc des images dans le cerveau du lecteur.
Jonathan Pollock.
Et l'expression sorcellerie verbale et d'Artaud lui-même. Il avait l'impression, lisant, parce qu'il était d'abord lecteur avant d'être raconteur, hein, avant de raconter le roman, il était lecteur du roman de Louis. Et l'expérience qu'il en a faite, c'était justement d'avoir l'impression d'entendre des incantations qui avaient un effet fascinant littéralement sur lui-même et qui lui donnaient la possibilité de plonger dans des perspectives nouvelles et étranges.
Le moine doit être lu hors de son romantisme qui fait date, dans son sens profond et libérateur. La scène dans le souterrain, pour qui veut la voir sous son vrai jour, se dépouille de son romantisme apparent, de ses flux et reflux de cadavres, de son abjecte odeur trop purement physique, pour prendre l'aspect d'un coup de sonde jeté dans tous les bas-fonds du hasard et de la chance, et revêtu du plus scintillant aspect métaphysique, devenir un appel pressant, frénétique, à l'amour dans la liberté. Antonin Artaud. Avertissement aux moines.
Le rapport d'Artaud au cinéma, il faut le restituer dans sa trajectoire. Pendant les années 20, il voit dans le cinéma des possibilités qui excèdent celles même du théâtre et de la poésie. Pour lui, le cinéma est plein de promesses et c'est un moyen de sonder les parties obscures de l'imagination humaine et de l'âme humaine. Mais j'aimerais vous citer simplement un autre texte d'Artaud où il dit, hein, je le cite, « J'aime le cinéma. J'aime n'importe quel genre de film. » Mais tous les genres de films sont encore à créer. Il continue, le cinéma implique un renversement total des valeurs, un bouleversement complet de l'optique, de la perspective, de la logique. Il est plus excitant que le phosphore, plus captivant que l'amour. Donc c'est quelqu'un qui a cru au cinéma, aux puissances du cinéma, et puis qui a ressenti une grande déception.
Mais on retrouve dans ce que vous dites les raisons aussi qui poussent Artaud à vouloir adapter Le Moine. C'est une fascination pour la dimension onirique du cinéma.
Tout à fait, la dimension onirique. Et d'ailleurs, quand on reprend sa version du Moine et on la compare à l'original, on constate que finalement, ces choix sont des choix de découpage, d'encadrement. On a l'impression qu'il prépare déjà ce texte pour le cinéma, que disons, c'est un premier travail de scénarisation. Il en retire sa puissance onirique et dramatique.
Sont obscurs ces immenses royaumes et ces lugubres déserts où il ne règne que le silence et la nuit, la sombre nuit, sombre comme était le chaos avant que le globe du soleil fût créé ou qu'il essayât ses rayons naissants au travers des ténèbres profondes.
Pour beaucoup, c'est une lecture adolescente, enfin un peu interdite. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années. Enfin, j'en connaissais l'existence, mais en fait, c'est une amie qui m'en a parlé. Donc, c'est un peu le livre de chevet. Et
Dominique Moll.
Du coup, ça m'a rendu curieux et j'ai lu le livre. Et puis, enfin, tout de suite, j'ai été attiré par l'univers gothique, un peu voilà, surréaliste. Enfin, toujours entre le rêve et le cauchemar. Enfin, quelque chose de très visuel aussi. Et d'un point de vue cinématographique, enfin, il y a beaucoup de références du côté du film muet, du côté de Murnau, enfin, que ce soit évidemment le Faust ou Nosferatu. Après aussi, des films qui avaient une dimension très onirique, comme par exemple Vertigo de Hitchcock ou Obsession de Brian De Palma, enfin, qui de toute manière est très proche du Vertigo. ou le Narcisse noir de Powell, qui ont un côté comme ça très artificiel dans le bon sens du terme et très onirique aussi dans leur facture et leur fabrication, que ce soit par l'utilisation de filtres de diffusion, de la musique, des couleurs, enfin toutes ces choses-là, quoi. En tout cas, j'avais envie d'aller vers quelque chose de qui n'ait pas peur de l'artificiel, enfin qu'on aille pas vers un naturalisme, mais justement qu'on reste dans l'univers du conte et du coup forcément dans quelque chose d'artificiel.
J'entends le cri d'un rapace. Un cri perçant et effrayant. Je m'approche du bord du toit. J'aperçois une jeune fille priant en plein soleil. Elle ne se retourne pas. Je ne vois pas son visage, mais je sens que je la connais. Je tends la main. Je n'arrive pas à la toucher. Je n'y arrive pas.
C'est l'histoire finalement d'une chute, d'une descente aux enfers, hein, de ce moine qui est exemplaire et qui va se livrer alors à toutes les transgressions possibles et imaginables, bien entendu, renoncer aux vœux de chasteté en commettant le crime de fornication avec la séduisante Mathilde, qui est en fait un émissaire, un agent, peut-être un diable déguisé, et qui va lui permettre de réaliser son vœu secret, qui est de séduire la jeune Antonia, qui a entendu ses prêches et qui a été séduite par son verbe.
Bien sûr, nous avons gardé tout l'épisode de Mathilde qui se travestit, on peut dire, en jeune novice pour venir le séduire jusque dans le couvent, le fameux plan où elle ouvre sa bure de moine et lui dit « je suis une femme » en lui montrant ses seins nus, ce qui est d'ailleurs une des illustrations de l'édition originale. Donc cette image avait été très frappante, un moine, parce qu'elle passe pour un moine, pour un homme, qui ouvre sa robe et qui montre des seins de femme, ça a quelque chose, vous voyez, des hermaphrodites d'autrefois. Ça, c'était une image très forte et qui était absolument gardée. À partir de là, nous avons tenu à montrer que Mathilde a réellement le pouvoir d'évoquer le diable, ou en tout cas un démon. Il n'est pas dit que ce soit le diable, lequel apparaît toujours comme mélancolique, doux, presque tendre. Enfin, c'était pas du tout l'image du grand bouc forcené.
Est-ce que cet humour noir dont vous parlez, vous le retrouvez dans le scénario de Jean-Claude Carrière et Louise Buñuel?
Tout à fait, oui. C'est un très beau scénario, j'ai trouvé à la lecture, puisqu'il a été publié donc aux éditions Eric Losfeld. C'est un très beau scénario qui, effectivement, alors insiste beaucoup sur la messe noire, en quelque sorte la descente dans la crypte, où Mathilda se livre à un certain nombre de rites qu'on devine, parce qu'ils ne sont pas indiqués dans le scénario, c'est dans les didascalies. Et on voit Ambrosio qui écoute, qui s'approche, qui voit des lumières, mais qui ne sait pas trop de quoi il s'agit, et qui ensuite, dans un deuxième temps, sera initié à ces mystères, et on verra l'apparition de Lucifer. Mathilda prend un poignard, se tranche une partie du bras, fait jaillir son sang, et apparaît à ce moment-là un jeune homme absolument magnifique, avec une étoile sur le front, et c'est Lucifer. La jeunesse et la beauté du diable. Et puis, oui, le clin d'œil final de Buñuel, qui n'est pas du tout, évidemment, dans l'original, qui est que les Thomas de l'Inquisition, il s'en échappe en faisant un contrat avec le diable, et lieu de se retrouver au bord du précipice de la Sierra Morena, il se retrouve dans un Rome contemporain, au Vatican. On voit des voitures qui passent, etc. C'est l'élection du pape, et Ambrosio est élu pape, à la fin. Donc on voit bien, effectivement, ce que Buñuel a pu tirer de ce récit.
Il attendit avec effroi l'apparition de l'esprit dont la venue était annoncée par la foudre et le tremblement de terre. « Il vient !» s'écria Mathilde avec un accent joyeux. Ambrosio tressaillit et attendit le démon avec terreur. Quelle fut sa surprise quand, le tonnerre cessant de gronder, une musique mélodieuse se répandit dans l'air. Au même instant, le nuage disparut, et Ambrosio vit un être plus beau que n'en créa jamais le pinceau de l'imagination. C'était un jeune homme de 18 ans, à peine, d'une perfection incomparable de taille et de visage. Il était entièrement nu. Une étoile étincelait à son front. Ses épaules déployaient deux ailes rouges et sa chevelure soyeuse était retenue par un bandeau de feu de plusieurs couleurs qui se jouait à l'entour de sa tête et brillait d'un éclat bien supérieur à celui des pierres précieuses. Des bracelets de diamants entouraient ses poignets et ses chevilles, et il tenait dans sa main droite une branche de myrte en argent. Son corps jetait une splendeur éblouissante. Il était environné de nuages, couleur de rose, et au moment où il parut, une brise rafraîchissante répandit des parfums dans la caverne. Enchanté d'une vision si contraire à son attente, Ambrosio contempla l'esprit avec délice et étonnement. Mais toute son admiration ne l'empêcha pas de remarquer dans les yeux du démon une expression farouche et sur ses traits une mélancolie mystérieuse qui trahissait l'ange déchu et inspirait une terreur secrète.
Étranger si plein de jeunesse et de désordre, aucun chagrin n'a encore corrompu ton repos. Tu jettes peut-être un œil de dédain sur la prière de l'ermite, mais si une faute ou un souci te fait soupirer, si tu as connu les tourments de l'amour trompé, ou qu'un crime tienne ton âme en effroi et te fasse languir, oh combien tu dois déplorer ta condition et envier la mienne.
Marteau, comme vous le savez sans doute, c'est un Marseillais hein, qui est né dans une famille très croyante. Donc, il a assisté à des innombrables messes à Notre-Dame de la Garde. Et dans le premier chapitre du Moine,
Jonathan Pollock,
il évoque cette expérience. Parce qu'il y a des moments où il s'écarte du texte de Louis pour évoquer ses propres souvenirs de ces grandes messes prêchées dans une cathédrale du sud de l'Europe.
Est-ce que vous pourriez nous décrire le film d'Artaud s'il avait existé, tel qu'on peut l'imaginer à partir du texte et à partir des photos?
On emploie souvent le qualitatif baroque pour ce genre de film. Disons, il faut une esthétique catholique un peu à la Scorsese ou à la Coppola, disons. Et en plus, il faut un rythme, il me semble, disons, là, j'ai dit il faut, mais je suis pas cinéaste, mais je constate chez Artaud, il y a un rythme de récit soutenu, ça va vite, hein. Et puis, il y a des effets de suspense, il y a des effets de mystère, on veut toujours savoir ce qui va se passer ou on veut savoir ce qui vient de se passer, hein. Un film haut en couleur, avec des actions évidemment exagérées, hein, des sentiments poussés à l'extrême, qui revendiquent l'hyperbole et la passion poussée à l'extrême. Un film proprement excessif.
She's all I have in the world.
There's still hope for her. Don't be sad.
Oh, Father, I'm so happy to see you here. You make me feel my mother has a chance for recovery.
Child, I cannot work miracles. Stand up.
If only you will pray for her.
Heureux, s'écria-t-il dans son enthousiasme romanesque. Heureux l'homme qui doit posséder le cœur de cette charmante fille. Quelle délicatesse de trait, quelle élégance de forme, quelle ravissante innocence dans ses yeux craintifs, et quelle différence avec l'expression lascive, avec le feu luxurieux qui brille dans ceux de Mathilde. Plus doux doit être un baiser dérobé à ses lèvres de rose que toutes les brutales faveurs dont l'autre est si prodigue. Mathilde me gorge de jouissance jusqu'à m'enlacer. Si elle savait le charme inexprimable de la pudeur, comme il captive irrésistiblement le cœur de l'homme, comme il l'enchaîne au trône de la beauté, jamais elle ne l'aurait répudié. Quel prix paierait trop cher l'affection de cette adorable fille? Que ne donnerais-je pas pour être relevé de mes vœux, pour qu'il me fût permis de lui déclarer mon amour à la face de la terre et du ciel? Oui, s'il y a un bonheur parfait sur la terre, il n'est réservé qu'à celui qui sera l'époux de cet ange. Tandis que son imagination forgeait ses idées, il marchait d'un air égaré dans sa cellule, ses yeux regardaient sans voir, sa tête était inclinée sur son épaule. Une larme roula sur sa joue à la pensée que cette vision de bonheur ne se réaliserait jamais pour lui.
Il y avait une coïncidence entre
Jean-Claude Carrière,
l'éducation religieuse de Buñuel et la mienne, parce que moi aussi j'ai passé plusieurs années dans un collège religieux. Et toute cette imagination, plus encore qu'un imaginaire mythologique chrétienne, qui faisait qu'on en arrivait à trouver la Vierge Marie sexy, puisqu'on n'avait pas d'autre image, enfin c'est pas mon cas, mais lui dans son couvent de jésuites n'avait pas d'autre image de femme. La seule image de femme sur laquelle il pouvait divaguer était celle de la Sainte Vierge. Donc il y a une correspondance entre une vraie éducation chrétienne, mais bien sûr de la fin du 19e, début du 20e siècle, et l'imaginaire protestant, anglican, antipapiste de la tradition à laquelle appartenait Lewis.
L'Angleterre a fait sa révolution religieuse, si je puis dire, c'est-à-dire que les monastères n'existent plus. Ce sont quelquefois aussi des ruines, hein, des ruines qui sont là aussi l'objet de
François Larocque,
tableaux, de promenades, de visites. Il y a tout un sentiment presque un petit peu nostalgique. Il y a à la fois, si vous voulez, un rejet du catholicisme et une sorte de nostalgie de ces rites du culte des saints, du culte de la Vierge Marie, et qui reviennent dans le moine, puisque si Rosario Mathilde séduit tellement Ambrosio, s'il renonce finalement à ses vœux, c'est parce que Mathilde a une ressemblance absolument frappante avec l'image, le tableau de la Vierge Marie qu'il a sous les yeux. Et on apprend ensuite que tout ça était une manipulation, c'est-à-dire qu'en fait le tableau de la Vierge Marie a été peint d'après les traits de la véritable Mathilde. Donc il y avait une sorte de complot, en quelque sorte des ténèbres et du diable pour le faire tomber.
Donc c'est cette coïncidence qui est très frappante entre l'aspect nordique de l'histoire, l'aspect Europe du Nord, et la coïncidence profonde avec des thèmes mythologiques chrétiens qui sont parmi les plus ancrés, car le sexe a été quand même l'ennemi du catholicisme, l'ennemi déclaré depuis le début. Et c'est pour cela que le sexe est tellement présent, à la fois dans le roman de Lewis et dans notre adaptation, bien sûr. Plus on est privé de quelque chose, et plus on le désire. Il y a une phrase qui caractérise l'Espagne, qui est cette image d'une dame espagnole qui mange un gâteau et qui dit « Lastima que no sea pecado ». Quel dommage que ça ne soit pas un péché.
Pour moi, c'était important de tourner en Espagne. Enfin, le roman est situé en Espagne. Je pense que Luis l'a pas fait par hasard aussi, parce que pour lui,
Dominique Moll,
le catholicisme espagnol était ce qui représentait le mieux, justement, tout ce qu'il n'aimait pas dans le catholicisme, avec voilà son imagerie, son délire de représentation, etc. Et effectivement, je pense que c'est toujours le cas. Enfin, en Espagne, le catholicisme est quelque chose de très fort, et notamment par rapport à tout ce que ça comporte d'imagerie, d'objets. Enfin, il y a quelque chose de presque sensuel et charnel dans le rapport aussi avec les icônes. Et quand j'étais en repérage en Espagne, enfin, à Madrid, enfin, au milieu de cette ville, il y a des églises où on rentre, où il y a donc des Christes en croix, en sang, et où il y a des dames, et pas forcément des vieilles, hein, enfin aussi des jeunes femmes qui viennent toucher les genoux du Christ. Donc il y a vraiment une dimension très physique, très sensuelle, et je pense que c'est ce qui intéressait Luis là-dedans, et bon, avec les processions aussi, évidemment. Et c'est quelque chose que je voulais garder, et que voilà, c'est pour ça que il me semblait que c'était important d'aller tourner là-bas pour retrouver aussi cette imagerie, y compris dans les paysages, dans les décors.
Le livre de Lewis est une vision anglicane du catholicisme espagnol, certainement très excessive, mais qui se situe au XVIIe siècle, donc à l'époque dure, où l'Inquisition était encore dure, au XVIIIe siècle. Quand le livre a été écrit, l'Inquisition avait beaucoup perdu de sa force. Et il est vrai que c'est une vision noire, dure, satanique, où les forces du mal sont présentes, les forces réellement diaboliques, c'est-à-dire c'est un livre à tendance surnaturelle.
Je pense même que probablement par moment j'aurais aimé que mon adaptation du moine soit un peu plus baroque et un peu plus dans le sens effectivement du baroque du Dracula de Coppola, mais je pense que voilà, par un goût, par sensibilité, je reviens toujours à quelque chose d'un peu plus austère et plus protestant que catholique. Je pense qu'en fait, c'est un choix qui vient du travail sur le personnage. Enfin, dans le roman, le personnage du moine est quand même extrêmement caricatural, enfin, parce que Louis s'en sert aussi pour régler ses comptes avec l'hypocrisie du catholicisme. Et très vite, en travaillant sur l'adaptation, je me suis rendu compte que, enfin, voilà, que ça avait un côté assez jubilatoire, mais que moi, pour le film, je trouvais qu'on restait trop à la surface, du coup, et j'avais envie de donner quand même un peu plus de consistance et de profondeur au personnage, et ce qui a aussi, du coup, accentué le côté plus tragique de l'histoire. Et je pense que parce que on a tiré le personnage dans ce sens-là, ça a aussi diminué le côté un peu ranguignol par moment du roman, et ça a effectivement tiré le style vers quelque chose de plus austère.
Parlez. Mon père, vous m'avez dit qu'on pouvait cacher la vérité pour servir un but plus élevé. Je vous ai trompé. Ce n'est pas pour me rapprocher de Dieu que j'ai voulu entrer au couvent. C'est pour être près de vous.
Alors, du point de vue des images, je trouve que c'est parfois des vrais tableaux, hein, les images nocturnes, les images du cimetière nocturne, le personnage de Rosario également avec son masque, un masque très curieux qui fait penser un petit peu au mannequin de Giorgio di Chirico, vous savez, dans une toile surréaliste, là, avec une sorte de lassage à l'arrière, quelque chose qui évidemment est antinaturel, est totalement artificiel, hein, qui en fait presque une sorte de zombie. Et ça, je pense que c'est une trouvaille. Enfin, il y a vraiment là quelque chose d'intéressant. Cette voix également, qui est une voix masculine, donc il y a tout ce problème de l'ambiguïté sexuelle, mais qui est rendu à sa façon. D'ailleurs, on parlait d'inceste, de meurtre, de vice, etc. Ce qui n'est pas dit, mais qui est constamment sous-jacent, c'est l'homosexualité. C'est-à-dire que cet homme-femme est l'objet justement de la... C'est lui qui suscite la tentation. C'est l'ambiguïté sexuelle, comme dans La Nuit des Rois de Shakespeare. D'ailleurs, on dit que Ambrosio ne savait pas distinguer un homme d'une femme. Alors on peut comprendre ça comme quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience sexuelle, mais on peut comprendre aussi le fait que voilà, il est autant attiré par les hommes que par les femmes. Donc il y a une ambiguïté là qu'on peut déceler et que Dominique Moll a rendu de façon aussi à la fois réaliste et en même temps artificielle. Enfin, c'est un choix que je trouve très intéressant, ce personnage masqué.
Dans le roman, le personnage n'est pas masqué. On dit juste qu'il prétend être extrêmement timide et que donc il a tout le temps sa capuche qui couvre son visage, enfin ce qui me paraissait difficilement tenable dans le film. Et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait fonctionner et faire en sorte que ce personnage se fait passer pour un garçon. Donc en fait l'idée du masque est venue assez vite aussi parce que voilà, ça aussi les masques font partie de tout cet imaginaire gothique et du coup aussi l'histoire qu'on invente autour de ça, comme quoi il a été défiguré, qu'il porte un masque pour qu'on ne voit pas ses blessures, enfin ce qui introduit aussi déjà l'idée de quelque chose d'effrayant ou d'horrible. Et c'est vrai que voilà, les masques, enfin avec leur côté figé en même temps très expressif, enfin ça a toujours quelque chose d'assez effrayant, et donc ça me semblait rentrer vraiment bien dans l'univers de cette histoire.
Pardonnez-moi, il fallait que je vous dise la vérité. Laissez-moi vous expliquer.
Taisez-vous. Allez dans votre cellule. Recueillez-vous, dialoguez avec Dieu. Demain vous partirez.
Mon père, vous aviez promis de ne pas me chasser.
J'ai fait cette promesse à Valerio. Valerio n'existe plus.
Valérie est toujours là. Je suis la même personne. Je garderai mon masque. Vous ne verrez plus jamais mon visage.
Voulez-vous que je trompe les autres frères comme vous m'avez trompé?
Non. Bien sûr que non.
Alors obéissez.
Je vous en supplie.
Vous avez entendu ma décision. Je vous inclurai dans mes prières. Je prierai pour le salut de votre âme.
C'est une scène évidemment très belle sur le plan esthétique, du point de vue des couleurs, la roseraie, on voit des roses blanches avec, au premier plan, m'a-t-il semblé, une rose rouge, hein, qui peut-être annonce le péché, la tentation, la sensualité. une sorte de clair-obscur, la clarté de la lune qui illumine la moitié du visage d'Ambrosio face au masque du mystérieux Valerio Rosario dans le roman de Lewis. Et c'est aussi, bien évidemment, lorsqu'il s'apprête à couper la rose et que le scolopendre, le mort, le pique, c'est un peu le serpent dans le jardin d'Éden. Donc on a une réminiscence biblique évidente. Simplement, c'est une scène, le jardin d'Éden, un petit peu étrange, un petit peu fantastique, que de voir donc cette Ève masquée avec cet Adam en robe de bure, voilà, qui rejoue, qui répète à leur façon, dans un contexte différent, le premier péché, péché originel.
Arto, il avait l'intention d'en faire un film. Nous avons les tableaux vivants, hein, les photographies qu'il a fait faire pour intéresser des éventuels producteurs. Mais ce qui est très frappant, c'est que ces tableaux vivants, dans un sens, répercutent ce qu'il y a d'original dans son travail de copiste, dans son travail d'écrivain. Parce que ce qu'on remarque quand on lit son, c'est pas une traduction, mais disons sa copie du moins, parce que copie c'est le mot qu'il revendique, ce qui frappe, c'est que, tandis que normalement il est court, il condense, il y a des coupes sombres, mais quand il s'agit d'évoquer des sensations corporelles ou des effets d'éclairage ou des postures physiques, là, au lieu d'écourter, il étoffe. Et c'est justement ça qui frappe dans les tableaux vivants, ce sont les effets d'éclairage. Il y a un clair-obscur très gothique, pour le coup. Et puis, on a une femme qui brandit un poignard, deux fois d'ailleurs. Ou bien, on voit Agnès qui s'agrippe au genou d'Ambrosio. Donc, ici, ce sont les postures corporelles, les effets d'éclairage, de clair-obscur qui sont mis en avant. Mais dans les tableaux vivants, là, on voit que c'est Arto qui incarne Ambrosio. Et on comprend que c'est un rôle taillé et fait à mesure pour Arto. Le fait que le moine soit, dans un sens, l'apogée du roman gothique, du roman noir, de l'ère romantique, ça l'a énormément intéressé et enthousiasmé.
Songe, terreur magique, prodige, sorcière, fantôme nocturne et présage.
Behold the maiden's blood.
À côté de trois cadavres en putréfaction était la belle endormie. Un rouge vif, avant-coureur de la vie renaissante, était déjà répandu sur ses joues. Elle avait l'air de sourire aux objets funèbres qui l'entouraient. En regardant ses ossements rongés et ses corps repoussants, qui jadis peut-être étaient pleins de grâce et de charme, Ambrosio pensa à Elvire, réduite par lui au même état. Le souvenir de cet acte horrible plongea son esprit dans une sombre horreur. Mais elle ne servit qu'à le raffermir dans sa résolution de détruire l'honneur d'Antonia. C'est pour toi, fatale beauté, c'est pour toi que j'ai commis ce meurtre et que je me suis vendu aux tortures éternelles. Maintenant, tu es en mon pouvoir. J'aurai du moins le bénéfice de mon crime. N'espère pas que tes prières, que la douceur incomparable de ta voix plaintive, que tes yeux brillants remplis de larmes, que tes mains suppliantes élevées vers moi, n'espère pas que ta touchante innocence, que ta belle douleur, ni que tous tes artifices de suppliante te rachètent de mes embrassements. Avant le point du jour, il faut que tu sois à moi, et tu seras à moi.
Je pense que l'un des ingrédients du moine, ce qui suscite l'intérêt, le suspense, c'est de prétendre nous offrir une clé pour montrer toutes les turpitudes, aussi bien sexuelles, sataniques, dans le cas d'Ambrosio, mais également sadiques, et j'emploie le mot à dessein, de la part, par exemple, de la mère supérieure du couvent qui fait enfermer la pauvre Agnès dont elle découvre qu'elle est enceinte et lui fait subir les pires tourments. Donc là, on retrouve un plaidoyer qui rappelle effectivement les attaques contre les monastères au XVIe siècle, mais aussi celle des encyclopédies, celle de Voltaire, celle de Diderot dans La Religieuse. Enfin, il y a au moment où écrit Lewis, hein, on retrouve dans les écrits de la Révolution française aussi ces attaques contre la vie monastique.
Il y a eu deux grandes modifications par rapport au, si je me souviens bien, parce que cela fait quand même quelques années. La première a été de supprimer entièrement tout l'épisode qui, à l'intérieur du moine, s'appelle la nonne sanglante, et qui est un récit rapporté, comme cela se faisait souvent dans les récits à tiroir. Donc tout cet épisode-là, qui est assez long dans le livre, est supprimé. La deuxième modification a été d'introduire, si on peut dire un anti-moine, un personnage qu'on a, nous avons appelé le duc de Talamour. Talar, en espagnol, veut dire massacré. Dévasté. Donc Talamour, c'est qui détruit l'amour, qui vit dans un château, qui est un duc à tendance très sadienne, pour ne pas dire sadique, et qui est donc la contrepartie du vertueux Ambrosio. Et c'est pour ça que nous avons accéléré. Alors d'abord, en coupant la langue sanglante et en hâtant la damnation d'Ambrosio, ça nous a permis évidemment de développer son séjour chez le duc de Talamour et toute la suite jusqu'à la fin, qui n'a pratiquement plus rien à voir avec le livre. Tout ça conduisant à la fameuse scène de, fameuse pour nous, scène d'interrogatoire à la fin où, au lieu de le torturer, on lui dit quelles sont les tortures qu'il va endurer, et c'est absolument insupportable, et puis le final au balcon de Saint-Pierre de Rome, tout cela faisait partie de notre travail, on peut même plus dire d'adaptation, c'était un travail d'invention quotidienne.
Le duc de Talamour, oui, qui est un personnage un petit peu à la Gilles de Rais, qui fait penser à une caricature, oui, du divin marquis, comme l'appelait Apollinaire, effectivement, qui tire très très nettement l'histoire de Louis vers les infortunes de la vertu ou les 120 journées de Sodome.
Poursuivez, je vous en prie.
Je songe à toi sur ma couche. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien.
Continuez.
Protégez-moi des ouvriers du mal. Voici qu'ils guettent mon âme. Ils reviennent au soir. Rôdent par la ville. Tant qu'ils n'ont pas leur sou. Il gronde. Tu me tires du gouffre tumultueux, de la vase du bourbier.
Et moi, je chanterai ta force. J'acclamerai ton amour au matin. Oh, ma force, pour toi, je jouerai. Oui, c'est toi ma citadelle. Le dieu de mon amour.
De ma vue, que la terre te cache. Tes os sont sans moelle, ton sang est froid. Tu n'as pas de regard dans ces yeux que tu fixes sur moi. Loin d'ici, fantôme horrible, moquerie irréelle, loin d'ici.
Peu à peu, il sentit la chaleur ranimer le sein qui reposait contre le sien. De nouveau, le cœur battit, le sang circula plus rapide, et les lèvres remuèrent. Enfin, elle ouvrit les yeux. Mais encore alourdie et toute troublée des effets du violent narcotique, elle les referma immédiatement.
c'était toujours avec lui, c'était comme avec une espèce de balancier. Non, il faut pas tomber ici, il faut pas tomber là. Et à partir de là, de développer quelque chose de purement buñuelien, qui est une avancée, un équilibre, comme toujours dans les films de Luis, sur la crête d'un précipice, avec des dangers de part et d'autre. Le danger du banal et du fantastique ordinaire d'un côté, le danger des monstres surgis de l'enfer de l'autre côté. Et dans Le Moine, il y avait quelque chose que l'on trouvait déjà dans Viridiana, c'était le désir de possession d'une femme endormie. Quand Ambrosio s'introduit chez Olivia, et chez Antonia, pardon, avec la branche de myrte qui ouvre toutes les portes, elle est endormie. Et c'est pour cela qu'il a l'intention de la posséder. Et quand nous travaillions ensemble, lui et moi, nous étions comme deux moines. C'est-à-dire seul, sans femme, sans amis, chacun dans notre cellule, toute la journée, et nous retrouvant pour travailler, le soir mangeant ensemble très sobrement, parlant très peu. C'était vraiment une vie monacale qui pouvait durer quelquefois 2-3 mois, ce qui était très très dur même à supporter pour moi qui avais 35-40 ans à l'époque, et pour lui aussi peut-être aussi. Donc il y avait, même dans notre vie quotidienne, des rituels, de la vie monastique, du rythme, des horaires très précis des repas, de tout ce qui pouvait nous passer par la tête de folies érotiques diverses ou de rêveries inavouées et inavouables d'ailleurs.
De moment en moment, la passion du moine devenait plus ardente et la terreur d'Antonia plus intense. Elle lutta pour se dégager. Ses efforts furent sans succès. Et voyant Ambrosio s'enhardir de plus en plus, elle appela au secours à grands cris. L'aspect du caveau, la pâle lueur de la lampe et les objets funèbres que ses yeux rencontraient de toutes parts étaient peu faits pour lui inspirer les sentiments qui agitaient le prieur. Ses caresses même l'éprouvaient par leur fureur. Cet effroi, au contraire, cette répugnance manifeste, cette résistance incessante, ne faisait qu'enflammer les désirs du moine et prêter de nouvelles forces à sa brutalité. Il la serra contre lui presque morte de frayeur, et harassée de la lutte, il étouffa ses cris sous les baisers, la traita avec la grossièreté d'un barbare éhonté, marcha de liberté en liberté, et dans la violence du désir lascif, blessa et froissa ses membres si tendres, sans faire attention aux pleurs, aux cris, aux prières. Il se rendit peu à peu maître d'elle et ne quitta sa proie que lorsqu'il eut consommé son forfait et le déshonneur d'Antonia.
Ô puissante reine, à vos pieds et vous offrons les armes qui devront servir à engager le combat spirituel contre l'ennemi du salut. Voici donc que je vous offre en premier lieu cette couronne d'épines. Je la mets sur mon front par amour pour vous, en vous suppliant de faire pénétrer ces épines dans ma tête, de telle sorte que je ne pense qu'à mon Dieu.
La mère d'Antonia est réveillée et menace de dénoncer donc le moine en qui elle voit un hypocrite, un séducteur. C'est alors que dans le roman, en tout cas, le moine l'étouffe avec un oreiller comme Othello étouffe Desdémone à la fin de la pièce de Shakespeare. Et donc on ajoute à cette transgression des promesses, des vœux faits par le moine, l'inceste, puisqu'il se révèle qu'en fait Antonia est sa sœur, le meurtre, le matricide, puisque Elvire est également la mère du moine Ambrosio, qui va être ensuite confondu, accusé par l'Inquisition, menacé de torture, de questions préalables, donc où l'on place les jambes entre des planches de bois que l'on serre, en introduisant des coins pour faire éclater les os. Face à l'horreur de ces supplices, Mathilda lui apparaît et lui propose de vendre son âme au diable pour échapper aux tortures et au bûcher.
par rapport au récit, comme on avait introduit cette histoire de tâche de naissance grâce à laquelle Elvire va reconnaître son fils à la fin et que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le roman. En fait, dans le roman, si je me souviens bien, enfin la mère sait jamais que Ambrosio est son fils et il me semblait important que dans le film, à un moment donné, elle s'en rende compte, même si elle profite pas longtemps de cette connaissance. Et voilà, et donc ce prologue était donc effectivement d'une part pour accentuer le côté conte et d'autre part aussi pour placer cette information sur la tâche de naissance.
Justement, ce changement que vous avez fait, qui fait que Elvire meurt en sachant que c'était son fils et qu'elle meurt des mains de son fils, c'est un peu un symbole de toute votre adaptation. C'est-à-dire que dans le roman, souvent on est dans une horreur généralisée mais qui est une horreur extérieure. Et dans votre film, c'est l'horreur intérieure, enfin, c'est l'horreur intime d'Ambrosio vis-à-vis de lui-même.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est trouver effectivement une profondeur et une vérité intérieure des personnages et qu'effectivement l'horreur ne soit pas simplement imposée par Satan, mais que voilà, que ça soit à l'intérieur de chacun des personnages. Et ça me semble effectivement plus intéressant et plus fort. Pour moi, c'est vraiment très sérieux et très premier degré. Et ce personnage m'intéresse justement aussi à cause de la réalité de sa foi et de ses croyances, et ce qui, encore une fois, n'est pas tout à fait le cas dans le roman.
Je crois que Lewis insiste beaucoup. Il y a de nombreuses pages qui sont consacrées au remords, à une espèce de dégoût de soi. Par moments, on avait l'impression de retrouver le sonnet 129 de Shakespeare sur le lust, hein, sur la luxure, un waste of shame dans un désert et dans un corps souillé, le sentiment de honte. Et en même temps, l'idée que voilà, le mal est toujours plus fort, c'est-à-dire la séduction, le désir, permettre au moine de passer outre ce sentiment de dégoût. Le terme employé par Lewis, c'est coiling. C'est un sentiment de dégoût de soi, de satiété. Donc ça, c'est ce qui marque ses rencontres avec Nocturne, avec Mathilde, et qui vont l'amener vers la pure, la chaste Antonia, qui, elle, peut-être désigne un objet du désir qui ne serait pas lié à ce dégoût de soi. Et donc, je crois qu'il y a toute une série d'états d'âmes qui ne sont pas simplement là... un prétexte, sinon je ne pense pas qu'il aurait consacré tant de pages à analyser ces ressorts psychologiques du dégoût. De ce point de vue-là, je parlais tout à l'heure de Georges Bataille, je crois qu'on a quelque chose qui est proche de Bataille. C'est-à-dire que l'érotisme, c'est quelque chose qui va au-delà de la simple satisfaction d'un désir, bien sûr, qui implique le dégoût, la mort, la nausée, on le voit bien, hein, dans Le Bleu du Ciel, Madame Edwarda, La Crue et d'autres textes. Donc il y a déjà quelque chose là qui annonce, à mon avis, plutôt Georges Bataille que simplement voilà une sorte de convention qui permet de donner cours à toutes les fantaisies fantastiques ou autres.
La scène de la nonne sanglante, celle surtout de la chute et du désastre du couvent, avec la poursuite dans les catacombes et l'apparition de la statue magique, ont la même efficacité d'évocation, le même pouvoir de lever en bloc les images dans le cerveau du lecteur que les incantations d'un rituel magique. Je veux dire que réellement et matériellement, tout cela tient d'une sorte de sorcellerie verbale, et que je ne me souviens dans aucune lecture avoir vu arriver sur moi des images avec ces sortes de plongées dans tous les dessous intellectuels de l'être. Des images qui, dans leur aspect d'image, traînent après elles un véritable courant de vie, prometteur, comme dans les rêves, de nouvelles existences et d'actions à l'infini. Antonin Artaud. Avertissement aux moines.
Il y a des textes très étranges qui datent des années 40. Par exemple, il va nous dire que, je cite, « L'autre n'a jamais eu aucune idée, il n'existe pas. Il ne fait que répéter après, dans le passé, ce que je pense ici, dans le présent. Hein? » Et on peut parler, si vous voulez, dans le cadre d'Artaud, d'un plagiat par anticipation. Dans un sens, Lewis l'avait plagié, lui, Artaud, par anticipation. Donc, il reprend son bien en adaptant ou en copiant Matthew Lewis. Et là, bon, on peut se demander pourquoi ce sentiment et pourquoi cette prétention, après tout. Et bah, savoir avec Artaud, il tient à sa singularité absolue. Et donc, quand il se reconnaît dans autrui, bon, il conclut tout naturellement, soit au vol, hein, on lui a volé son bien, son propre bien, soit à une identité occulte.
Satan n'a que le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Réjouis-moi, Ambrosio. Nous ne sommes pas si différents.
Qu'est devenu Antonia?
Elle a sombré dans les ténèbres de la folie. Elle ne reconnaît plus personne. Tu n'as pas fait les choses à moitié. Oublie Antonia. Cède-moi ton âme. Reconnais mon pouvoir. Et je t'offre l'éternité à mes côtés.
Je vous céderai mon âme si vous sauvez Antonia de la folie.
Ambrosio, pense à toi maintenant. Je t'offre le paradis à mes côtés.
Et comme on le sait, en philosophie platonicienne, hein, la copie d'une copie n'est pas tout à fait la même chose qu'une copie d'un modèle. Hein. La copie d'une copie, c'est ce que Platon appelle un simulacre ou un fantasme. Et le rapport avec le modèle est un rapport, si vous voulez, de fausse ressemblance. Et c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que finalement, la lecture d'Artaud, c'est une lecture fidèle? Et est-ce que la ressemblance, du moins d'Artaud, avec le moine de Louis est une vraie ressemblance, un rapport de copie à modèle, ou est-ce que finalement Artaud, il a écrit une œuvre qui ne donne que l'effet d'une ressemblance purement extérieure, et est-ce que finalement son roman à lui, Artaud, ne serait pas une œuvre assez originale et finalement quelque chose d'assez personnel? C'est ce qu'il dit lui-même dans ses lettres, qu'il s'agit d'une œuvre personnelle.
Aveugle, mutilé, perclus, désespéré, exhalant sa rage en blasphème et en imprécation, maudissant l'existence, mais redoutant l'arrivée de la mort, qui devait le livrer à de plus grands supplices, le criminel languit six misérables jours. Le septième, il s'éleva une violente tempête. Les vents en fureur déracinaient les rocs et les forêts. Le ciel était tantôt noir de nuages, tantôt tout enveloppé de feu. La pluie tombait par torrents, elle grossit la rivière. Les flots débordèrent. Ils atteignirent l'endroit où gisait Ambrosio. Et quand ils s'abaissèrent, ils entraînèrent avec eux le cadavre du moine infortuné.
De Louis, de l'écrit à l'écran, avec Jean-Claude Carrière, François Larocque, Dominique Moll et Jonathan Pollock. Lecture, Carlo Brandt. Vous avez entendu des extraits du Moine d'Ado Kirou, d'après un scénario de Louis Buñuel et Jean-Claude Carrière, et du Moine de Dominique Moll. prise de son, Benjamin Chauvin, Jean-Richard Dufour, Jean-Baptiste Etchepar-Bord. Mixage, Claude Niort. Une émission de Florence Colombani, réalisée par Céline Terce.
Vous écoutez Création On Air. Nous vous donnons rendez-vous samedi 20 août à 21h pour 12 mois d'amour à droite, à gauche, par Dominique Méhens et Gaëlle Gillon.